Voilà, bonjour bien-aimés, c'est une joie d'être parmi vous ce matin. J'ai une pensée qui m'est venue pendant qu'on priait ensemble et je voulais vous la partager pour commencer ensemble ce matin. On peut aller en Genèse 27. J'aimerais qu'on lise deux versets courts. Donc, Genèse 27. Verset 4, d'abord, c'est l'histoire d'Isaac. C'est au moment où Isaac va bénir Jacob, qui va voler à Ésaü la bénédiction, voler entre guillemets, vu que Ésaü l'avait quelque peu méprisé, son droit d'aînesse et cette bénédiction. Donc, il s'avère par un moyen tout à fait particulier que Isaac va bénir justement Jacob à la place d'Ésaü. Et qu'est-ce que dit Isaac en verset 4 ? « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et ensuite au verset 25, on va ensemble, Isaac dit « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea et lui apporta aussi du vin. Et il but. Voilà ces deux versets qui me sont un peu revenus dans le cœur pour commencer, parce que dans la prière, il m'est venu cette pensée que Dieu veut nous faire apprendre à le bénir. Et c'est vrai que Isaac, ces versets-là, ça nous semble assez charnel. Hein, il a besoin d'avoir un bon repas, comme ça, alors il va pouvoir bénir son fils. Alors, si ça n'avait pas été bon, je ne sais pas ce que Isaac aurait fait. Par la grâce de Dieu, c'était du bon gibier. Et en fait, c'est vrai que d'un point de vue humain ou d'un premier abord, on peut se dire « Oula, bon, c'est pas très spirituel tout ça », mais en même temps, il y a vraiment un enseignement de Dieu. Et Dieu aimerait nous instruire, nous qui sommes très occidentaux, qui avons la jugeote facile hein, et qui jugeons assez facilement les choses, de nous montrer cette bénédiction vraiment du fond de l'âme, du fond des tripes. Et Isaac, c'était quelqu'un comme cela, c'était un vrai. Et c'est sûr qu'on est appelé à être détaché de la nourriture, détaché des biens de ce monde. En Christ, Dieu fait de nous des pèlerins. Donc je ne vais pas prêcher maintenant aujourd'hui le bon gibier. J'aimerais vous prêcher cette bénédiction du fond de l'âme. Et Dieu, en sa parole, tout au long de l'histoire, il n'a pas fait avec des gens qui, j'ai envie de dire, qui avaient l'air de gens qui aimaient Dieu ou qui paraissaient être très spirituels. Il a fait avec des vrais. Il a fait avec des gens du terroir. Il a fait avec des gens de la terre. Et Isaac, on voit que cette bénédiction, elle vient du fond de lui-même. Alors, gibier ou pas gibier, j'aimerais simplement en introduction nous dire ces quelques mots peut-être pour nous faire palper justement quelque chose où nous, voilà, on vient, on dit, voilà, j'aime Dieu, mais cette bénédiction, ces gens qui aiment vraiment Dieu. Vous voyez, Isaac, c'était quelqu'un comme ça, alors il osait demander du gibier, mais alors du coup, mais son fils, il l'a béni, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, du fond du ventre ou du fond de l'être. Et ça, des fois, nous, vous voyez, on a tellement envie d'être spirituel, ou on croit qu'on est tellement spirituel, qu'alors voilà, on joue des fois plus aux chrétiens ou à ceux qui aiment Dieu qu'à des véritables gens, hommes et femmes, qui aiment l'Éternel vraiment. Et je crois que l'aimer, justement, ben, c'est, comme on le dit souvent, c'est des actes. C'est en vérité, c'est pas en parole, c'est pas juste, voilà, avec mon cœur, c'est avec tout ce que je suis. Et finalement, cette bénédiction d'Isaac, et juste cet exemple du gibier, eh ben, me revenait dans ce sens-là, de dire, Seigneur, apprends-nous à te bénir. C'était ce verset à la suite de la sœur qui priait, qui me revenait, mon âme bénit l'Éternel. Mais est-ce qu'on sait bénir l'Éternel comme pouvait le dire David, hein? David, il a dansé quasiment nu devant l'arche. Il n'en a eu rien à faire de tout ce que les autres pensaient. Et je ne dis pas qu'il faut commencer à faire n'importe quoi dans l'église de Dieu, bien évidemment que non. Mais en même temps, il y a un feu, il y a un amour que Dieu aimerait réveiller. On en a parlé il y a deux semaines, que cet amour, on doit le réveiller. Hein, c'est ce cantique des cantiques. Réveille l'amour, réveillons l'amour, bien aimé. Et à l'image d'un Isaac, eh ben, il avait cet amour réveillé. Vous voyez, même s'il cause du gibier, il aimerait bien manger pour bénir son fils. Moi, ça me parle. Et ça me parle justement de quelque chose qui est vrai, qui est incarné. Et nous, notre tendance, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, c'est de beaucoup trop spiritualiser les choses. Hein, on en parle souvent, mais je crois que c'est tellement central, c'est tellement capital. Parce que si on reste dans une spiritualisation de la parole de Dieu, c'est ça qui est la source de tous nos problèmes. C'est ça qui est la source d'une église tiède. C'est ça qui est la source d'une église sans force. C'est ça qui est la source de chrétiens qui restent orgueilleux, qui restent jaloux, qui restent dans des péchés sans cesse et sans cesse et qui n'a pas une véritable transformation dans la vie des gens. C'est parce que justement, la Bible reste au niveau du cœur, des intentions du cœur. Mais comme le dit ce proverbe qui n'est pas biblique, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ce n'est pas avec des bonnes intentions qu'on va dans le royaume de Dieu. C'est en aimant Dieu du fond de ses entrailles et de ses tripes, comme l'aimait Isaac. Amen. Et comme l'aimait un David qui pouvait dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Et j'espère et je prie qu'on soit un peuple qui grandit semaine après semaine, culte après culte, dans le fait de bénir l'Éternel, mais du fond de l'être, vraiment du fond de tout ce qu'on est. Et pour ça, ben, Dieu, il nous veut tout entier et il ne veut pas nous partager et que subtilement, parce qu'on spiritualise les choses, parce qu'on se dit que l'essentiel, c'est le cœur. Alors oui, c'est vrai, mais en même temps, le cœur, comme on le voit dans l'épître de Jacques, etc., un cœur qui aime Dieu, ben, ça va être des actes, ça va avoir des conséquences. Et bien que justement dans cette bénédiction du fond de l'être, on puisse grandir comme un peuple qui aime l'Éternel et qui bénit vraiment son Dieu, qui aime son Dieu comme pouvait aimer, comme Isaac aimait son Dieu, comme David aimait son Dieu, et pas seulement, vous voyez, dans une petite chaleur dans le cœur ou quelque chose qui nous fait chaud, non, quelque chose qui nous prend de la tête aux pieds, bien aimé. Amen. Corps, âme et esprit, un amour qui nous embrase tout entier. Voilà simplement ce que je voulais dire par rapport au fait que Dieu puisse, par l'esprit, hein, ce n'est pas par la tête qu'on va y arriver et qu'on pourrait même le comprendre, mais par le Saint-Esprit, qu'il nous apprenne quelle est vraiment la véritable bénédiction de notre Dieu, de bénir l'Éternel du fond de son être. Et je crois qu'alors, ça fera de nous un peuple d'adorateurs, un peuple vraiment de serviteurs, qui ne pourra pas juste servir Dieu le dimanche, mais qui servira Dieu tout au long de la semaine, par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il est, qui servira Dieu par tout ce qu'il dit, par toutes ses attitudes, par son humilité, par sa simplicité, par son feu, son amour, son zèle. Et c'est ce que Dieu veut pour son Église. Une Église qui le reflète, pas à quelques pourcents, ou un quart, ou un tiers, ou je ne sais quoi, mais à 100%. Donc, qu'on puisse s'inspirer et qu'on puisse, j'ai envie de dire, être peut-être des fois des gens non pas incrédules parce qu'ils sont bien sur la terre, vous voyez, mais des vrais. Des gens qui sont vrais, qui disent les choses. Et des gens vrais, c'est vrai que des fois c'est plus facile d'être vrai quand on tire la couverture à nous pour ce qui nous arrange. Mais en même temps, je pense que quand on est vrai, si on entend une parole de vérité, si Dieu nous convainc de péché, alors ce sera une vraie conviction de péché aussi. Ce ne sera pas quelque chose qu'on va faire à moitié. On ne va pas laisser le travail se faire à moitié. On va laisser ce travail aller jusqu'au bout. Et je crois que c'est ça l'enjeu, bien aimé, qu'on ne s'arrête pas en chemin, mais qu'on aille jusqu'au bout avec Dieu et qu'on le laisse faire son travail jusqu'au bout avec nous. Alors on peut aller un petit peu plus loin, bien aimé, dans cette première alliance, Deutéronome 29. On va ensemble à partir du verset 16 et suivant, et après on ira dans l'accomplissement de cette première alliance, le Nouveau Testament, qui alors nous met encore, pas forcément le bon terme, mais qui nous coince encore plus. Le Nouveau Testament est beaucoup plus exigeant que l'Ancien. Mais c'est normal parce que Christ est venu, alors si on laisse Christ vivre en nous, Christ il est parfait, il est saint, alors on peut être saint, on peut être parfait comme lui, il l'est, bien aimé, même si bien sûr que ça reste un chemin et que la véritable perfection l'atteindra au ciel, mais en même temps on peut justement grandir et aspirer à vraiment une perfection et une sainteté qui aussi reflétera la gloire de notre Dieu et qui nous rendra que plus heureux et que plus libres. Deutéronome 29, verset 16 et suivant, nous lisons: vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Surtout à partir de ce verset. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, amen, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Je répète ce verset 19, « Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. » Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi. Voilà, bien aimé, ce passage un petit peu central duquel j'aimerais partir ce matin avec vous, surtout ce verset 19, qui m'a particulièrement touché, qui m'a particulièrement secoué, dans le fait que face à cette alliance contractée avec serment, Dieu dit que personne ne se glorifie dans son cœur face à cette alliance et dise « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur ». Et j'aimerais faire avec vous le constat aujourd'hui d'un mal qui ronge justement l'Église, qu'on se glorifie de l'alliance en Christ. On se glorifie de cette alliance que Dieu a fait avec nous et... Souvent, c'est vrai que je le dis, alors ça paraît un peu exagéré, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est attaché au cœur de l'homme. C'est finalement de dire, bon, bah, Dieu il m'a aimé, mais à quelque part, c'est quand même parce que je le méritais bien. Et alors, ça peut nous paraître gros, vous voyez, de dire ça, parce qu'on va tous avoir, justement, peut-être, l'apparence de l'humilité en disant, non, je sais bien que je suis pécheur. Mais si tu sais bien que tu es pécheur, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire, c'est quelque chose que tu vis. C'est quelque chose que, c'est une parole que tu laisses rentrer jusqu'au fond, justement, comme je vous parlais d'Isaac. C'est quelque chose qu'il faut qu'on laisse aller jusqu'au bout de notre vie. Parce que c'est bien joli de dire, non, quand même, je ne vais pas dire que je mérite bien que Dieu m'ait aimé comme ça en donnant son fils. Mais en même temps, si tu ne mets pas ta vie en pleine lumière devant Dieu, si tu le laisses pas te convaincre de pécher jusqu'au bout, te libérer de toi-même jusqu'au bout, en même temps, c'est encore ce que tu dis. Tu ne le dis peut-être pas, mais c'est encore ce qu'il y a dans ton cœur. Et ça, c'est la pure et la stricte, je crois, vérité à la lumière simplement de la parole de Dieu, de dire que justement, face à cette alliance, eh ben, on a malheureusement encore la tendance à se glorifier finalement subtilement. Parce que si vraiment on apprend à ne pas se glorifier, comme Paul ne se glorifiait pas, et on va lire qu'est-ce que nous dit Paul par rapport à la glorification, et que s'il doit se glorifier de quelque chose, de quoi Paul se glorifie ? Mais ce penchant finalement en nous, comme il dit, je suivrai les penchants de mon cœur et j'ajouterai l'ivresse à la soif. Et on croit que justement, on aimerait le beurre et l'argent du beurre, et puis voilà, on aimerait tout avec. Vous voyez, on est cette génération d'enfants gâtés, et je crois que on a des fois encore subtilement, oui, cette pensée ou cet amour de nous-mêmes qui fait que, bah oui, quand même, Dieu, il m'a aimé, bon, bah, c'était quand même la moindre des choses, enfin voilà, c'est quand même parce que je suis quelqu'un de bien. Alors que non, que l'amour de Dieu, c'est la pure grâce. Et nous, on méritait que l'enfer, mais ça, on peut le dire, bien aimé, je peux même moi vous le dire, et même pour moi-même et pour ma vie, j'ai besoin encore que le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, il vienne en moi, il sépare encore tout ce qu'il doit séparer. Parce que si cette alliance, elle est si glorieuse, si elle a été contractée avec serment, et plus qu'avec serment, avec du sang, et plus que du sang, le sang du Fils de Dieu, comment est-ce que j'arrive encore à garder les choses? Comment est-ce que j'arrive finalement encore subtilement à me dire, ben ouais, j'ai la paix un peu, mais voilà, même si je suis les penchants de mon cœur, ben c'est bon, je vais continuer à avoir la paix. Non, non, on n'aura pas la paix, bien-aimé, si on ne laisse pas cette alliance en Christ, la croix de Christ, aller jusqu'au bout dans notre vie. Et ça, c'est tout le bonheur, c'est toute la vie que Dieu a pour nous. On ne va pas aller là-dedans maintenant, mais dans ce livre du Deutéronome, combien on a de fois ce mot « afin que tu sois heureux, afin que tu vives ». Dieu, c'est la vie. Je l'expliquais encore à ma petite fille encore hier, de dire, mais elle le sait très bien, parce que nos enfants, quand ils sont à la garderie, ils sont instruits dans la parole de Dieu, mais le péché, c'est la mort. Et de dire, ben voilà, mais qu'est-ce que tu choisis ? Ben, est-ce que tu choisis le péché ou est-ce que tu choisis Jésus? Est-ce que tu veux la vie ou est-ce que tu veux la mort? Ben, je veux la vie. Ben, alors choisis Jésus, ne pêche pas, ne pêche plus. Choisis, détermine aujourd'hui ton éternité, détermine-toi aujourd'hui pour Christ. Et ça, un enfant, je ne lui ai pas exactement dit bien sûr les choses comme je vous le dis là maintenant, mais on peut l'instruire, on peut lui expliquer. Et puis, il y avait derrière aussi cette instruction que je lui donnais, le fait de dire, mais Dieu, il veut que tu aies la vie, ma chérie, ma petite Sarah, il veut que tu aies la vie. C'est pour ça que tu es là. Et papa, il veut que tu aies la vie. Alors ne pêche pas, ne pêche plus. Dieu, il ne veut pas ça dans ton cœur. Il ne veut pas qu'il y ait le péché dans ton cœur. Et souvent, des fois, les gens, on méprise un peu l'enseignement aux enfants. On aimerait voilà, tout de suite se retrouver devant les foules. Mais quand on instruit les enfants, ben, j'ai envie de dire, on se prêche à nous-mêmes, puis on est édifié. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ben voilà, c'est en parlant à une petite fille de 3 ans et demi que même moi, j'ouvrais peut-être encore plus les yeux sur l'alliance de mon Dieu avec moi. Sur l'alliance de l'Éternel avec moi. Et ce que je lui disais, ben, je l'applique à ma vie. Et de choisir Christ. Et justement, de pas me glorifier dans mon cœur face à ce si grand amour. Et de dire, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Et bien aimé, laissons-nous sonder par cette parole, parce qu'en tout cas, moi personnellement, je sais qu'elle me reflète encore. Et que je veux plus que cette parole me reflète. Hein, ce verset qu'on vient de lire, je veux face à cette alliance, la laisser aller au bout, et ne plus jamais me glorifier dans mon cœur de quoi que ce soit, si ce n'est de ce que Paul se glorifie. Et vous connaissez ces versets, on y va ensemble maintenant. Galates, chapitre 6, verset 14 et suivant. Quel est le remède finalement pour qu'il n'y ait plus ces penchants de nos cœurs, que face à l'amour de Dieu, on ne le prenne plus à la légère cet amour? Quelqu'un parmi nous a prié qu'on ne soit pas léger devant toi. Alors justement, on parle de la sainteté de Dieu, mais c'est ça. La sainteté de Dieu, elle est pour nous amener à réaliser quel est le prix du sang de Christ, quel est le prix de cette alliance. Et pourquoi est-ce qu'encore je me bats pour ci, pour ça? Pourquoi est-ce qu'encore je lutte intérieurement? On est fou, bien-aimé. Et justement, on est cette parole du Deutéronome. On dit, j'aurai la paix quand même, je suis les penchants de mon cœur. Oui, Seigneur, t'es mort sur une croix pour moi, mais attends, là, voilà, ça, c'est quand même un peu fort. Ça, c'est un peu difficile encore à lâcher. Ça, voilà, ouais, allez, pardon, mais du bout des lèvres. Non! Face à cette alliance, bien-aimée, ne suivons plus les penchants de nos cœurs. N'ajoutons pas l'ivresse à la soif. Mais laissons l'Éternel vraiment aller au bout avec nous et laissons Christ nous libérer et faire de nous un peuple de sacrificateurs, de prêtres, de prophètes, hein, pour le servir et pour l'aimer. Galates 6, 14 dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ?« Par qui le monde est crucifié pour moi ?» comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Ça, un verset qu'on connaît par cœur. Hein? Après, si c'est donné, on ira dans les Corinthiens, où Paul parle aussi à nouveau, le fait que le but, c'est d'être une création nouvelle. Si Christ fait son œuvre, toutes choses anciennes ont disparu. Mais les choses anciennes, bien-aimées, elles ne peuvent pas disparaître. C'est vrai qu'en Christ, elles ont disparu. L'œuvre de Christ, elle est faite. Il n'y a plus rien à redire. Il n'y a pas à rajouter, à retrancher. Christ, c'est le tout suffisant. Son œuvre est toute suffisante. Il n'y a aucun cas, il n'y a aucun homme, aucune femme, aucune situation qui est au-delà de la portée de l'œuvre de Christ. Mais en même temps, justement, parce qu'on va encore se glorifier parfois dans notre cœur, cette nouvelle créature, ces choses anciennes, elles ne peuvent pas complètement disparaître. Mais si la Bible nous dit, si Paul dit qu'en Christ, toutes les choses anciennes ont disparu, c'est que c'est possible, non? J'en avais déjà parlé une fois, mais c'est quelque chose qu'on pourrait parler tous les jours. Il faut en parler, il faut le méditer, il faut le prier tous les jours. Pour dire, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si la Bible dit que les choses anciennes, elles peuvent avoir toutes disparu, pourquoi est-ce que nous, encore parfois, on a certains boulets? Pourquoi encore on a encore certaines choses qui s'accrochent à nous? Je pense que c'est parce que Deutéronome 29 nous dit la vérité sur notre cœur, nous dit la vérité sur nous-mêmes, que face à l'alliance et face à Christ, des fois, on se dit encore, j'aurai la paix, quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur. Quand bien même J'aime ces boulets, ils me dérangent un peu, mais bon, je les aime bien quand même, vous voyez. Et c'est ce que disait Paul aussi à certains chrétiens, de dire, je crois que c'était aux Galates, si je ne fais erreur, de dire, voilà, vous le supportez fort bien. Hein, vous supportez fort bien, finalement, d'être dans la chair. Et des fois, ces boulets, on sent que Dieu aimerait nous en libérer, puis en même temps, on les aime quand même encore un peu. Et il faut qu'on laisse justement Dieu vraiment faire son œuvre en nous, parce que oui, c'est possible qu'on soit justement une véritable nouvelle création. Mais pour être une nouvelle création, justement, Paul nous dit qu'il se glorifie d'une seule chose, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait quoi ? Cette croix, c'est quoi ? C'est quelque chose, voilà, une belle image, quelque chose qui brille avec de la lumière. Alors oui, on peut avoir des révélations dans l'esprit de la croix, mais en même temps, je crois que la plus grande des révélations dans l'esprit qu'on peut avoir de la croix, c'est ce que dit Paul, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà la solution, bien-aimée, à tous nos problèmes, aux problèmes de toute l'Église et aux problèmes de toute l'humanité dans son ensemble. C'est la croix qui doit faire son effet et qui fait que le monde, avec ses penchants, avec sa séduction, avec son péché, avec ses blessures, avec ses coups qu'on a pris, etc., etc., il est crucifié pour nous. Et moi, je suis aussi crucifié pour lui. Ça veut dire qu'il, dans un sens ou dans un autre, on ne peut plus s'accrocher, on peut plus, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de prise. Le monde est mort, crucifié, et je suis mort, crucifié. Donc il n'y a plus de relation entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui fait de nous un peuple mis à part. Pas qu'on va dans la forêt ou dans la jungle et qu'on ne voit plus personne, mais que intérieurement, je suis saint, je suis mis à part pour l'Éternel mon Dieu. Et alors justement, c'est là que je suis une nouvelle création, une véritable nouvelle création, une nouvelle créature créée par Christ selon Dieu. Et je crois que voilà, c'est la seule chose qui fait que Paul a été utilisé si puissamment. C'est que Deutéronome, il le connaissait et il a dit, moi, cette parole, je l'accepte dans ma vie et je ne veux pas continuer de suivre les penchants de mon cœur. Je ne veux pas continuer de me dire, j'aurai la paix, Dieu a fait alliance avec moi, tout va bien et puis on continue comme ça. Non, je laisse cette parole descendre, je la laisse faire son œuvre. Alors oui, je deviens crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Et alors oui, je suis une nouvelle création et Dieu peut se servir de moi et je peux être un homme et une femme heureux jusqu'à renverser les montagnes, qui que ça aille bien ou que ça aille mal, comme certains l'ont prié, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de Christ, ça dépend de justement de savoir est-ce que je suis crucifié pour le monde, est-ce qu'il l'est bien pour moi. Alors oui, dans ce cas, même quand il pleut, il fait beau et le soleil de justice, il brille dans nos cœurs. Amen, bien-aimés. Et on va quand même aller lire la parole de Dieu. Souvent, ça aussi, c'est malheureusement un penchant de nos cœurs, de dire « oui, je connais ce passage, etc. » Moi, le premier. Alors, on va quand même aller dans 2 Corinthiens 5. Cette parole, on la découvre toujours. C'est une parole qui est esprit et vie. On a besoin du Saint-Esprit. Hein, bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, priez avant de la lire. Demandez au Saint-Esprit de venir vous parler. Tout simplement, il n'y a pas besoin de prier longuement, mais de disposer nos cœurs quand on lit la parole, de dire « Seigneur, j'ai besoin de l'Esprit pour la lire. » Sinon, voilà, je la lis humainement, enfin, ou comme ça, et je passe à côté de perles que seulement le Saint-Esprit peut me révéler et me donner. Alors, on va dans 2 Corinthiens 5, verset 17 et suivant. C'est vrai que le passage d'avant, moi, c'est un des passages les plus importants pour moi. Quand il dit « l'amour de Christ nous presse », on ne va pas le lire, parce que j'aimerais insister plutôt sur la fin. Mais cet amour, il nous presse, bien-aimés, encore ce matin. « Si quelqu'un est en Christ », verset 17, « il est une nouvelle création ». Amen. Les choses anciennes sont passées. Il ne dit pas une partie des choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous demandons, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Et je crois que si on veut vivre cette parole, chaque jour, que c'est aujourd'hui le jour du salut, on n'est pas sauvé une fois pour toutes. Le salut, c'est quelque chose qu'on met en œuvre, comme dit Paul, tous les jours. Et si on veut être au bénéfice de cette œuvre de salut et ne pas recevoir cette grâce de Dieu en vain, eh bien, il faut que cette parole de laquelle on est parti du Deutéronome, ben on l'accepte et puis qu'elle puisse faire son œuvre dans nos vies. Afin qu'on ne se dise pas, voilà, non, Dieu il m'a réconcilié avec lui, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, voilà, et puis ben voilà, j'ai la paix et puis j'avance. Non, je veux dire, il ne peut plus y avoir penchant de mon cœur. Je ne peux pas ajouter l'ivresse à la soif. Je veux Dieu, je veux l'aimer, je veux être tout entier à lui. Je veux vraiment le servir de tout mon être. Et comme je le disais, comme Isaac, le bénir, bénir de mon âme l'Éternel, de mon esprit, de mon corps, de tout ce que je suis, le bénir du fond de mes entrailles. C'est vrai que pour moi, quand j'ai rencontré Dieu, ben, j'ai eu la grâce, j'ai envie de dire peut-être, même si je ne sais pas pour autant que je l'ai vécu tous les jours, et on en est tous, on est tous dans le même bateau, bien aimé, on doit tous se faire violence, tous s'exhorter tant que vous c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, je me suis dit, mais s'il est Dieu, mais je ne peux que le bénir justement de tout mon être. Je ne peux pas le bénir avec la moitié de moi-même ou en étant encore divisé, en étant encore à moitié crucifié, puis que le monde, ben, il soit encore à moitié vivant pour moi. Non, le monde, il doit mourir. Le monde, il doit mourir si Dieu a fait alliance avec moi. Il y a, je crois, besoin de cette révélation. Et malheureusement, on n'en parle tellement plus assez de cette jalousie. Hein. On l'a lu dans Deutéronome 29, si rapidement, et je vais retrouver parce que ça, en vous le lisant. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la colère de Dieu? Ça peut nous paraître fort ou dur, mais parce qu'il nous sent partagés, parce qu'il nous sent divisés, parce qu'il nous sent hypocrites, ou comme le dit même Jacques, adultères. Adultère, non, moi, jamais. Mais si le monde, bien-aimé, il n'est pas crucifié pour toi, ou pas complètement, ben, il y a encore un peu d'adultère. Et c'est là que Dieu, ben, il vient, et puis c'est son amour de dire, mais il nous exhorte à crucifier ce monde, il nous exhorte à crucifier tout ça, toutes ces choses passées en Christ, et ben, elles doivent être plus là, elles doivent être révolues. Et ça, il l'a fait, bien aimé, ça, il l'a fait. Faut qu'on s'en saisisse de cette alliance. Et pas, voilà, justement, on se laisse simplement à l'image de lorsque Moïse hein, aspergeait le peuple, hein, lorsqu'il lisait la Torah, etc., avec le sang. Non, qu'on ne se laisse pas juste asperger, mais qu'on rentre dans le service de Dieu, qu'on rentre dans les œuvres de l'Éternel, qu'on le laisse vraiment nous libérer jusqu'au bout. Sinon, on n'est pas des témoins de la gloire de Dieu, bien-aimé. Et Dieu aimerait manifester en nous sa gloire, manifester en nous son cœur et son amour. Et c'est pourquoi je pense que quand Paul écrit ses premiers versets ou ses versets aux Corinthiens, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, il connaissait ces choses. Il connaissait justement cet esprit de la Torah qui voulait que le peuple soit tout entier à Dieu. Il connaissait la jalousie de Dieu, Paul. C'est pourquoi justement, ben, tout ce qu'il exhorte, Paul, mais tous ses premiers disciples, tous ses apôtres, avaient ben, effectivement en eux cet amour, et cet amour comme l'avait David pour son Dieu. Et je crois que c'est ça qu'on doit rechercher, bien-aimé. C'est là qu'elle est la passion pour Dieu. C'est qu'effectivement, eh ben, par la sainte jalousie de Dieu, nous puissions effectivement être véritablement réconciliés avec lui en Christ et des nouvelles créatures pour sa gloire. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse se dire qu'on aura la paix quand bien même on pourrait un peu à quelque part rester en nous-mêmes, mais qu'on puisse laisser Dieu ben, justement faire son œuvre jusqu'au bout. Qu'on, nous aussi, on le veuille, on veuille que cette œuvre, elle est au bout. Il faut aussi qu'on veuille justement ben, rentrer dans toute cette alliance que Christ a fait avec nous. On peut lire un dernier passage, bien aimé, Hébreux 12, qu'on y aille ensemble. Hébreux 12, verset 18, un passage aussi qu'on connaît, j'ai envie de dire, bien généralement, mais qui nous parle, si vous restez avec moi, qui nous parle justement vraiment de l'Épître aux Hébreux, c'est une des lettres, bon, on dirait ça de tous les livres, hein, de toutes les lettres, mais un des passages, moi que je préfère qui est vraiment extraordinaire, cet épître aux Hébreux, parce qu'on voit toute la gloire de la première alliance. Et combien l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit, mais là, cette gloire-là, mais non, c'est tellement plus glorieux en Christ. C'est tellement, c'est l'accomplissement, Jésus, c'est l'accomplissement. Et c'est pourquoi, justement, il y a dans cet épître aux Hébreux beaucoup d'exhortations à être saints, beaucoup d'exhortations à persévérer dans le Seigneur, à être des hommes et des femmes de foi, à tout donner pour Dieu. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, ben, j'ai envie de dire, à l'image de nous ce matin, ben, il avait cette conscience de cette Torah, de cette première alliance qui est de cette jalousie de Dieu. Alors, lui qui avait cette révélation inspirée par le Saint-Esprit, il disait, mais en Jésus, il y a tout. Et puis, il faut tout donner. Et puis, vous ne pouvez pas rester là à moitié. Vous ne pouvez pas justement suivre les penchants de votre cœur et vous dire que vous aurez la paix face à cette alliance que Dieu a fait avec vous par le sang de son Fils. Et c'est ce qu'on va voir justement. Il dit que si on peut refuser d'entendre la Torah, eh ben, il faut vraiment qu'on fasse très attention, parce que si on refuse d'entendre le Fils, ô combien on va encore plus trembler, parce que cet amour, cette alliance, elle est encore beaucoup plus accomplie en Jésus. Alors on va lire ces versets à partir du verset 18, Hébreux 12, 18. « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. » Hein, il parle du mont Sinaï, bien sûr. « Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. C'est tellement riche, hein, on est obligé de passer, mais on continue de lire ensemble. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bien-aimés, que cette alliance est glorieuse. Et je crois que si justement, dans le livre du Deutéronome, on a Dieu qui nous parle en disant que l'homme qui se glorifierait dans son cœur face à cette alliance faite avec serment, qui se dirait « j'aurai la paix et Dieu a fait alliance avec moi, donc c'est bon ». Et aujourd'hui, on voit que c'est exactement la pensée qui est prêchée beaucoup sur la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Mais la grâce, finalement, comme on la prêche malheureusement aujourd'hui, eh bien, elle fait que les gens y vivent de Deutéronome 29. Ils veulent ajouter l'ivresse à la soif. Ils se disent qu'ils ont la paix, alors que pourtant, intérieurement, comment lui, Dieu, il voit les choses, il voit des gens qui suivent encore les penchants de leur cœur. Et alors oui, parce qu'on se dit, non, mais Dieu, il a fait alliance en Christ, c'est la grâce. Oui, bien-aimé, c'est la grâce. Mais comme nous dit l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui ne veulent pas forcément lire la première alliance, mais lisez alors tout l'Épître aux Hébreux. Et vous verrez que vous serez devant un constat d'échec encore plus grand que si vous lisez le Deutéronome ou d'autres livres de la Torah. Ça nous confond encore plus, cet épître aux Hébreux. Ça nous met devant justement la vérité, la réalité. Et que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une séduction dans le peuple de Dieu, un évangile à bon marché, quelque chose qui fait qu'on ne devient pas véritablement des nouvelles créatures, et que malheureusement le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, eh ben, il ne parle pas mieux, il parle même moins bien, et il parle même finalement même plus. On n'entend même plus la voix du sang de Christ qui crie à nos oreilles et surtout à nos cœurs.
je t'aime. Amen. C'est ce je t'aime de Dieu. C'est son amour pour nous. C'est sa jalousie pour qu'on lui appartienne et pour qu'on soit totalement un peuple racheté, sanctifié, libéré de l'esclavage, libéré d'Égypte. La sortie de l'Égypte, on en a parlé il y a 2 semaines à Gantis, ce n'est pas une spiritualité. Ce n'est pas juste, voilà, oui, Dieu il m'a libéré d'Égypte, je suis sorti de l'esclavage parce que, ben voilà, je crois en Jésus. Non, c'est quelque chose qui te prend tout entier, comme Isaac, eh ben, il avait bien mangé, ben là, de tout son être, il disait, oula, je vais bénir mon fils parce qu'alors là, c'était bon ton repas. Vous voyez cette bénédiction d'où elle vient? Eh ben, Dieu aimerait que l'amour de Dieu, ben, il vienne aussi de là dans son peuple. Et malheureusement, parce que justement, eh ben, on a un peu trop l'ensemble de la grâce, là, oui, Dieu t'a fait grâce, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alors tu suis les penchants finalement un peu de ton cœur encore, tu te dis que de toute façon tu as la paix, mais cet amour d'Isaac, cet amour de David, cet amour de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cet amour de Paul qui avait crucifié le monde et qui lui-même était crucifié pour le monde, ben, on n'y goûtera jamais, bien-aimé, on n'y goûtera jamais. C'est ça la base de nos montagnes russes, c'est parce que malheureusement, la parole de Deutéronome 29, c'est encore ce qu'on vit. Dieu a fait alliance avec nous, on marche quand même, bien sûr, dans une certaine mesure dans son alliance, mais on se laisse peut-être encore quelques portes de sortie. Et simplement, ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, c'est ça. Fermons ces portes, bien-aimés. N'essayons pas de passer entre les gouttes, parce que c'est des gouttes qui sont complètement illusoires. C'est quelque chose... C'est justement toute la définition du péché, c'est un plaisir momentané, c'est quelque chose où voilà, on est content, on a raison, où, voilà, on a réussi sur le moment, voilà, on est satisfait. Mais c'est cette satisfaction momentanée, ou alors cette fuite, ou alors ces peurs dans lesquelles tu restes, eh ben malheureusement elles t'empêchent de connaître la vraie vie de Christ. Le véritable amour de Dieu qui fait que comme Isaac, alors quand tu vas venir louer l'Éternel avec tes frères, avec tes sœurs, mais tu auras cet amour. Alors on pourrait dire, oui, bon, Julien, il est un peu... Mais voilà, si vous m'aviez connu avant que je me convertisse, jamais j'aurais pu vous dire ça. Je parlais pas, j'étais un grand timide, etc. Donc c'est pas une question non plus forcément de tempérament. C'est une question du feu de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés. Et qu'on soit un petit bout de femme, un grand bout d'homme ou je ne sais quoi... Cet amour d'Isaac, cet amour de David, cet amour de Paul, de Christ, il veut pleinement se sortir et jaillir de nos cœurs. Amen. Et c'est ça que le monde a besoin aujourd'hui. Il n'a pas besoin de théorie, il n'a pas besoin de doctrine, etc., de faire un pont avec une croix, et puis ben là voilà, puis du coup tu passes par la croix, puis tu es de l'autre côté, etc. Je caricature bien sûr, mais il a besoin de voir des vivants, il a besoin de voir des gens mais qui transpirent l'amour, qui transpirent la liberté, qui transpirent le Christ vivant. Et je crois que si on veut être ces témoins, pas parce qu'on dit et par nos théories, c'est ça que je voulais dire, mais parce qu'on est, eh ben, puissions-nous voir cette parole et comprendre cette parole du Deutéronome ce matin et voir qu'elle fait du bien à nos cœurs, qu'elle fait du bien à nos vies. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous dit, mais cette alliance, elle est sainte, mon fils, ma fille bien-aimée. Elle est sainte, cette alliance que j'ai faite avec toi. Alors, puisses-tu ne pas voir et vivre dans cette alliance en te laissant encore te dire, ben, j'ai la paix, puis je laisse encore, finalement, des fois, encore des petites choses comme ça, des petites portes de sortie. Et... Non, parce que si cette porte, tu dis à Dieu, Seigneur, je vois que j'ai cette porte de sortie. Je vois que ça, c'est un penchant de mon cœur. Mais j'en veux plus. J'en veux plus. Et si tu demandes à Dieu son aide, si tu demandes à Christ et à sa croix de venir œuvrer dans ta vie pour que cette porte, elle se ferme, pour que justement ce penchant, ça cesse, il va t'aider. Mais il faut le demander. J'ai envie de dire, comme Pierre, il faut faire ce premier pas sur l'eau. Et alors, Dieu va faire, tu vas faire le reste. C'est pas qu'on va s'améliorer pour Jésus. On ne s'améliore pas pour Dieu. C'est Christ qui fait son œuvre en nous. Mais pour ça, il faut ouvrir. Hein. C'est ce que nous dit cette parole de l'Apocalypse. Jésus, il tape, hein, il frappe. Mais il n'arrive pas avec le bélier pour casser la porte. Hein, non, il ne nous viole pas, il ne nous force pas, Seigneur. On est libre. Et moi, c'est aussi quelque chose que je ressentais vraiment avec ma fille. Je disais, mais Dieu, il nous laisse libre. Tu peux choisir le péché, puis tu peux tout autant choisir la vie. Et c'est vrai qu'en lui parlant, je ne sais plus avec qui je disais ça il y a 2 semaines à Gantis, avec peut-être un de vous, qui me disait, mais pourquoi finalement, des fois, on se dit, mais pourquoi Dieu, il n'a pas plutôt fait de nous des robots, voilà, automatisés pour ne pas pécher. Ça veut dire, ben, justement, s'il nous avait fait j'ai envie de dire, qu'il n'y avait pas eu bien sûr la chute, et puis qu'on avait pu être programmé pour être saint, etc. Ou que lui-même, ben, j'ai envie de dire, voilà, il ne nous laisse pas cette liberté, mais ô combien c'est son amour nous laisser libres. Et je crois qu'on le voit dans un couple, mais on le voit même de manière générale dans la relation entre êtres humains. C'est que parce qu'on est libre et l'amour, et ben, c'est justement ça, c'est laisser libre quelqu'un. C'est, si on est forcé à faire, la personne, elle sera jamais touchée de ce que vous allez lui faire pour, ce que vous allez faire pour elle. Si ça vient parce que vous devez le faire, ça vaut rien. Mais si cet amour, on le prouve alors qu'on est libre, alors là, c'est du vrai amour. Là, c'est vraiment quelque chose. Ça a une consistance, ça a une substance. Et ce que Dieu veut, ben, c'est ça. C'est que face à lui, cet amour qu'il a manifesté alors qu'on n'avait rien demandé, ben que nous, il voit en nous cette réponse. Et s'il y a en nous, comme j'aime à le dire, parce que ça aussi c'est quelque chose que Dieu doit nous révéler, et puis on ne va pas partir là-dedans aujourd'hui, mais quand Jésus dit voilà que juste un grain de sénévé de foi, ça suffit. Il dit voilà, même si c'est tout petit, mais Dieu après il le transcende, il fait une œuvre qui nous dépasse. Mais pour ça, faut donner la petite chose. Faut le vouloir, faut le désirer. Et peut-être que Pierre, je sais pas, si, peut-être bon, le connaissant, il a certainement, je sais pas, il a pas plongé, mais il a dû, je sais pas moi, sauter dans le lac ou je sais pas ce qu'il a fait. Ça m'étonnerait. J'allais dire, peut-être que Pierre, il a fait qu'un petit pas. Vous voyez, il a peut-être fait comme ça là pour dire, ah ouais, là, c'est dur. Bon ben, c'est bon, je peux poser le pied. Mais le connaissant, je pense que non. À mon avis, c'est plutôt jeté. Hein. Mais tout ça pour dire que. Même si on fait comme ça, eh ben, l'eau, elle avait durci sous les pieds, ou si elle n'avait pas durci, je ne sais pas, c'est un vrai miracle, hein, mais Pierre était porté par quelque chose pour lui donner justement de marcher justement sur les eaux de ce lac. Mais même si c'est petit, mais si on dit à Dieu, j'ai ce penchant, j'ai ça encore, tu le vois, combien c'est difficile, combien dans ces moments ça me submerge, mais aide-moi, je te l'amène à la lumière, je le confesse, je demande conseil à un frère, à une sœur, je le partage, je demande qu'on prie pour moi, pour que ce penchant il soit balayé de ma vie. Mais bien aimé, ça va pas prendre longtemps avant que vous soyez libéré. Mais pour ça, il faut le vouloir. Pour ça, justement, on est séduit par notre chair, séduit aussi par le diable, séduit aussi par ce qui est même aujourd'hui, des fois, malheureusement, dans certaines églises, dit ben que voilà, Dieu t'a aimé, voilà, réjouis-toi, t'es sauvé, et puis continue à faire ce que tu veux. Ben, c'est complètement cette parole du Deutéronome. Je pense que vous la réalisez parce que je pense que vous êtes des gens qui grandissaient justement dans la connaissance de Dieu. Combien cette parole qu'on a lue du Deutéronome, elle est une prophétie pour notre temps. Elle est une prophétie pour ce qui se vit aujourd'hui malheureusement dans l'Église où on voit des choses mais terribles. Ou des gens qui s'appellent chrétiens. Mais si on imaginait Paul débarquer dans certaines assemblées, mais il ferait quoi Paul? Si on imaginait Élie, David, Isaac arriver dans certaines assemblées, mais ils deviendraient fous. Parce qu'ils aimaient Dieu, ils avaient un amour, ils étaient au service de l'Éternel, ils étaient embrasés par Dieu de la tête aux pieds, puis ils avaient, face à cette alliance, et c'est ce qu'on lit aussi dans l'Épître aux Hébreux, c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, c'est extraordinaire. Vous connaissez ce chapitre 11 de tous ces témoins de la foi. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Vous vous rendez compte? Pourtant, ces gens, ils ont été sciés, ils ont été torturés, ils ont été lapidés, ils sont morts, ils ont été martyrs pour leur foi. Il y a tous les juges, Barak, Jephté, Samson, David, etc. Tous ces héros de la foi. Il dit qu'il fallait que nous, enfin, ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Ça veut dire sans Christ surtout. Hein, mais alors, nous qui sommes au bénéfice de cette alliance, mais bien-aimés, mais mon Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et je crois que si on aime vraiment Dieu, eh ben, de cette manière-là, si on veut l'aimer de cette manière-là toujours plus, ben, je crois que du coup, on aura la sincérité, l'honnêteté, l'humilité de voir peut-être encore certains penchants et de dire, Seigneur, libère-moi de ça. J'en veux plus. Aide-moi. Seigneur, je ne peux pas m'améliorer, mais Christ fait ton œuvre. Que la croix de Christ, je la laisse se planter dans ma vie. Et alors là, bien aimé, on verra la bénédiction de Dieu. On verra vraiment cet amour grandir en nous et être comme ce bien-aimé, comme Salomon avec sa bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. On sera un peuple qui aime Dieu, qui adore Dieu et j'ai envie de dire
Non pas qu'il fera envie humainement en disant regarde les chrétiens comme s'ils sont heureux, mais de voir qu'il y a quelque chose qui habite en nous, bien-aimés, qu'il y a une plénitude de vie, qu'il y a une plénitude d'amour dans le cœur de ceux qui, comme Paul, ont fait du monde quelque chose de crucifié et de eux-mêmes quelque chose aussi de crucifié. Et je crois que si on doit se glorifier, c'est que de cette croix-là, mais ne nous glorifions plus de nous-mêmes, bien-aimés. Ne soyons pas séduits par nous-mêmes et ne nous glorifions plus de nous-mêmes en se disant qu'on a la paix, quand bien même on suit les penchants de notre cœur, parce que, comme le dit la suite de ce passage qu'on a lu, non, l'Éternel, il ne tolère pas ça. Il ne tolère pas de nous partager avec le monde. Il ne nous tolère pas de nous partager avec nos blessures, avec notre orgueil, avec le péché, avec la chair. Il ne tolère pas de nous partager, bien-aimés. L'Éternel, il nous veut tout entier. Et si Christ, il a versé son sang pour nous, c'est pas pour que son sang, il soit efficace à moitié, il soit efficace aux trois quarts. C'est pour qu'il nous lave et qu'il nous libère complètement, bien-aimés. Mais ça, malheureusement, il y a comme quand même des fois presque de l'incrédulité encore en nous de dire, mais est-ce que vraiment c'est possible? Oui, c'est possible, bien-aimés. Quel que soit notre âge, si on veut que ces penchants ils nous quittent, eh ben on va travailler ensemble. Et c'est là le service de l'Église, c'est de s'aider, c'est de s'exhorter, c'est de prier les uns pour les autres, c'est d'être cette famille, non pas qui se tape de côté en disant « Ah ouais, Dieu, il nous aime quand même vachement, hein, super d'être chrétien, j'exagère un peu, excusez-moi. » Mais qui va plutôt se prendre la main de dire mais qu'on soit un peuple libéré d'Égypte, qu'on soit justement comme Marie qui a pu prendre ce tambourin à la sortie de la mer Rouge et qui a commencé à entonner un cantique avec toutes les femmes d'Israël et ils ont loué Dieu pour là parce qu'là ils étaient libérés, là ils étaient sortis justement d'Égypte et la mer elle avait submergé tous les Égyptiens et là concrètement ils touchaient au salut de Dieu, ils touchaient à la délivrance. Ben, bien aimé qu'on soit un peuple qui loue pas Dieu parce qu'on le loue dans l'église, puis c'est la tradition, mais parce qu'on est vraiment un peuple sorti d'Égypte, parce que vraiment on est un peuple libéré par le seul amour de Dieu, par le seul sang de Christ, mais qui est un sang efficace, qui est une œuvre rédemptrice, non pas que le sang soit quelque chose en soi, bien aimé, c'est rien d'invoquer le sang, mais de laisser la croix de Christ faire son œuvre en nous, de laisser Jésus faire vraiment son œuvre en nous. Je crois que c'est ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il a donné son Fils, bien aimé, c'est afin qu'on lui appartienne, et c'était ce qu'on n'a pas lu, ce que disait Paul dans les Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Ben, s'il nous presse, c'est qu'à ça, bien aimé. C'est qu'à, effectivement, être pleinement libéré pour Dieu et par Dieu, pour Dieu. Et du coup, après, ben voilà, on rentre dans son service, on rentre dans un véritable amour de notre épouse, de notre mari, de nos frères, de nos sœurs. On rentre vraiment dans le service. Et alors là, Jésus, eh ben, il prend la place en nous et il nous donne son discernement, il nous donne son esprit, il nous donne sa sagesse, son intelligence. Mais si on est encore un peu à moitié dans les penchants de nos cœurs, la pensée de Dieu, on ne la connaîtra jamais. On ne l'aura pas, bien-aimé. On n'aura pas le discernement que Dieu veut qu'on aille. Et du coup, on sera un corps handicapé qui ne marchera pas comme il doit marcher. Et la tête aimerait que son corps marche comme elle aimerait la tête. Et pour qu'on puisse faire son œuvre ici-bas, sur cette terre. Je termine, bien-aimé, ce passage pour le prendre un petit peu hors contexte. Deutéronome 30, vous pouvez venir avec moi si vous le voulez, sinon je le lis assez rapidement. Deutéronome 30, il parle justement, ben, après Deutéronome 29, le fait d'avoir voulu dire au peuple ben, de revenir à lui et de pouvoir justement ben, accepter cette parole, de dire « Est-ce que tu ne te laisses pas encore aller au penchant de ton cœur? Est-ce que tu ne dis pas que tu as quand même la paix, même si tu es dans ta chair ?» Ben, je suis désolé en Christ, bien-aimé. Si on est dans notre chair, avec Christ, on n'a pas la paix. C'est pas possible. La chair et Christ, ça va pas ensemble. Paul, il l'a expliqué longuement. Y a-t-il un commun accord entre Bélial et Christ, entre la lumière et les ténèbres, entre les idoles et Dieu, etc. Il dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas de commun accord. Donc on peut pas vivre dans la chair, on peut pas vivre dans les penchants de notre cœur et se dire qu'on a la paix avec Dieu. Parce que si Dieu il a donné Christ, c'est pour que tu sois plus dans la chair. Alors s'il t'arrive, oui, de retomber, de pécher, alors oui, là, si tu te repens. Mais si tu te laisses être dedans et qu'il n'y a pas de repentance, mais Christ, de toute façon, même s'il voulait faire quelque chose pour toi, Christ, il ne pourrait pas. Parce que Christ, ce n'est pas justement magique, c'est une œuvre qui se fait dans des vies, c'est une œuvre qui se fait dans des cœurs. Et elle se fait ou elle ne se fait pas, puis c'est tout. Et il n'y a pas d'autre chose, c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, on l'a compliqué. Et comme je disais au début, eh ben, voilà, comme on a tout spiritualisé, que tout se passe dans le cœur, alors du coup, on ne peut plus rien juger,
Puis alors tout le monde est sauvé parce que tout le monde a Jésus dans le cœur. Mais non, c'est pas ça les critères de discernement que nous donne la parole de Dieu. Elle nous a jamais dit, si tu as Christ dans ton cœur, tu es sauvé. Oui, Paul parle de confesser de sa bouche et de confesser, de croire dans son cœur, mais il parle à des Romains qui, s'ils croyaient en Jésus et qui confessaient Jésus lorsqu'on passait avec dans les rues avec la statue de l'empereur ou avec des idoles, on leur disait « prosterne-toi, sinon tu mourras », ben là, il fallait qu'ils confessent Jésus de leur bouche. Alors là, c'est pour ça que Paul y parle comme ça aux Romains. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai Jésus dans mon cœur et puis tout va bien. Non, si Christ fait cette œuvre en moi, si je me suis repenti, alors je ne suis plus dans le péché. Jésus dit « Celui qui pêche ne l'a ni vu ni connu. Hein ». Ça, c'est des paroles et des versets qu'on entend moins aujourd'hui dans l'Église, malheureusement. Mais pourtant, c'est tout à la gloire de Dieu. De nous. Il n'a pas ouvert la moitié de la mer Rouge en disant « Allez, Israël, vous sortez jusqu'à la moitié. Ah, là, non. Ah, je voulais pas vous sauver jusqu'au bout. Alors voilà, je la referme. Et puis comme ça, Égyptien, Israélien, voilà, tout le monde serait mort dedans. » Non. Dieu, c'est un Dieu qui va jusqu'au bout de son œuvre. Lui, il ne fait pas les choses à moitié. Alors, bien-aimés, ne faisons nous aussi pas les choses à moitié. Laissons-le aller au bout avec nous. Ayons envie d'aller au bout. Et puis alors là, on verra la grâce et l'amour de Dieu d'autant plus répandus dans nos vies, au milieu de nous, et encore pour ce monde qui en a besoin. Alors je termine par ces quelques versets justement qui nous parlent de la vie, bien-aimés. Deutéronome 30, et justement, si on laisse cette parole faire son œuvre en nous, alors c'est un petit peu hors contexte, parce que là il parle que quand le peuple a péché, il serait dispersé, mais s'il se souvient de ces choses, alors il le ramènera. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne dans ces versets qu'on va lire, oui, que Dieu nous ramène encore à lui ce matin. Qu'on puisse être un peuple, oui, qui est là, et qui regarde derrière et qui voit la mer rouge, la mer se refermer, et il voit les Égyptiens tomber et mourir et qui sont vraiment libérés, vraiment sauvés, qu'on soit ce peuple-là ce matin et de plus en plus. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction aussi et la malédiction, parce qu'on a besoin aussi du jugement de Dieu, on a besoin d'être repris aussi, que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, est-ce que ces paroles, bien-aimés, et je vais poursuivre, je vais bientôt m'arrêter, est-ce que ça nous parle de demi-mesure? Est-ce que ces paroles nous parlent de quelque chose qu'on fait à moitié? Voyons comme on laisse les choses aller comme ça, comme on n'est pas consciencieux avec Dieu, j'ai envie de dire. On peut dire, voilà, dans le travail, il y a des gens qui sont consciencieux ou pas, il y en a qui laissent un peu en plan les choses, d'autres qui les mènent au bout. Voyons comme, même avec Dieu, on n'est pas consciencieux. Et puis si on n'est pas consciencieux avec Dieu, on n'arrivera pas à être consciencieux aussi dans les choses concrètes, ça c'est bien évident. Mais on laisse les choses des fois à moitié, ou on laisse encore des penchants de nos cœurs. Mais la Bible nous parle que d'être entier, d'être tout à 100%. Il ne nous parle pas de 90% ou de 95%, non, de 100%. Et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, amen, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs, et nous sommes peut-être encore captifs de certaines choses, bien-aimés, alors qu'on soit un peuple libéré ce matin, et aura compassion de toi, et te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et là, c'est trop beau, bien-aimés. Et c'est là qu'il ira te chercher. Dieu, il vient nous chercher, même. Vous vous rendez compte de son amour? L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Hein, si on lui demande, il va le faire. Il va circoncire nos cœurs. Il va fermer ses portes de sortie. Il va enlever ses penchants de nos cœurs. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Amen. Et je vais m'arrêter là. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Hein, on aimerait tous que nos enfants soient sauvés. Eh bien, circoncisons nos cœurs, balayons les penchants de nos propres vies. Alors, on verra du changement dans nos familles. Alors, peut-être qu'on verra l'œuvre de Dieu, pas seulement dans nos familles, mais dans les gens aussi autour de nous. Parce que quand ils nous verront, ben, ils seront confondus. Ils diront, waouh, là, il y a quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Là, il y a quelqu'un, mais je sens qu'il est libre, je sens qu'il est humble. Mais là, je suis confondu. Et là, il y aura des choses qui vont se passer autour de nous, bien-aimés. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu à nouveau de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Amen, bien-aimé. Père, je te prie que cette parole elle soit vivante pour nous ce matin, Père, afin que tu vives, afin que nous vivions. Tu es venu pour nous donner la vie, et comme l'a dit Jésus, la vie en abondance, Père. Et pas quelque chose qui fait que quand on est dans les penchants de nos cœurs et que c'est dur. Et... Non, Seigneur, et fais-nous grâce, augmente-nous la foi, Père, comme le te demandaient tes disciples, pour croire que oui, cette œuvre, elle est toute suffisante. Cette œuvre de Christ, elle balaye tout. Tu es celui qui ouvre la mer rouge. Tu es, comme le dit la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, Christ, tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as la puissance de tout changer, de tout transformer. Peu importe, Seigneur. Seigneur, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, tu as le pouvoir, Seigneur, tu as le pouvoir, si on te le demande, si on le veut, de nous donner cette vie, si on le veut de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors comme tu l'as dit dans cette parole qu'on vient de lire, tu ramènes les captifs et tu nous délivres de la servitude, tu nous délivres de l'esclavage. Alors Père, je te prie qu'on soit un peuple, Seigneur, qui est sorti vraiment de l'esclavage, un peuple qui peut bénir l'Éternel de toute son âme, de tout son cœur, comme le dit le psaume, mon âme bénis l'Éternel, alors qu'on soit un peuple qui bénit l'Éternel, non pas seulement en parole, mais par toute sa vie, par tout son service, par toutes ses attitudes, par tout son travail, par toutes ses relations, qu'on soit un peuple qui bénit l'Éternel. Ô notre Dieu, merci pour ta vie que tu donnes encore par ta parole ce matin. Tu nous donnes la vie, tu donnes la vie à nos cœurs, à nos âmes, à nos esprits, alors qu'on, Seigneur, on puisse s'accrocher à cette parole, ne pas s'en éloigner, ne pas refuser d'entendre celui qui parle par sa parole et par son esprit, mais que justement on mette en œuvre ce salut avec crainte, avec tremblement, et en même temps il y a la joie, il y a l'amour, il y a le feu, il y a la liberté. Père, qu'on puisse toujours plus goûter à ces choses afin d'être un peuple qui te sert dans ces temps de la fin, véritable flambeau pour ce monde de ténèbres, flambeau bien allumé, pas juste une petite flamme, mais une torche vivante. Oh oui, qu'on soit un peuple de torche vivante et bien enflammée, pour qu'on mette le feu au monde, Seigneur, qu'on mette le feu encore à ceux qui le veulent, ô Père éternel, et qu'on puisse être vraiment un peuple de racheté, un peuple sorti de l'esclavage par Jésus, ton Fils. Ô le Sauveur bien-aimé de nos âmes et de nos vies, le Rédempteur, le Libérateur, par lequel encore nous t'avons prié ce matin, et lequel nous voulons encore continuer de suivre et de servir jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen.